identité africaine sur Radio Sputnik Afrique.
Kenny Soninke.
Gaï Binam.
Baba Zangante.
Bonjour à tous les auditeurs de Radio Sputnik Afrique. Aujourd'hui dans Identité africaine, Algérie, secret défense. Sous le sable, la radioactivité. Le 13 février 1960, la France teste sa première arme nucléaire dans le Sahara algérien. En tout, dans la région, l'armée française réalisera 17 essais nucléaires entre 1960 et 1967. Pourquoi la France choisit-elle l'Algérie ? Quelles ont été les répercussions sanitaires et environnementales de ces essais nucléaires ? 6 décennies après ces 17 essais nucléaires, dont 4 dans l'atmosphère et 13 souterrains réalisés par la France sur les sites de Rangane et d'Inéker dans le désert du Sahara algérien, il n'y a toujours pas eu d'études sérieuses de retombées sur cette radioactivité. Ce dossier ne fait qu'envenimer encore plus les relations entre la France et l'Algérie, déjà très refroidi après les propos du président Emmanuel Macron qui accuse, en qualifiant le système algérien de politico-militaire, d'entretenir une rente mémoriale, en servant à son peuple une histoire officielle qui ne s'appuie pas sur des vérités. Après le retrait de l'armée française en 1967, des déchets radioactifs ont été abandonnés sur place. Sous le sable, la radioactivité. Pour en parler au micro de Radio Sputnik Afrique, dans Identité africaine, le directeur d'ICAN France, monsieur Jean-Marie Collin.
Bonjour, merci pour cette invitation.
Je rappelle que pour l'Algérie, les accords d'Évian ont été signés le 18 mars 1962, mettant fin officiellement à 132 années de colonisation française et à plus de 7 années de guerre qui ont fait plus d'1,5 million de morts en Algérie. Ce qui veut dire que, malgré l'indépendance de l'Algérie, la France a continué d'exploiter les sols algériens comme polygone pour ses essais de bombes atomiques.
Oui, c'est ce qui était conclu dans le cadre des accords d'Évian, que l'État français puisse rester 5 années de plus, donc après 1962, sur le territoire algérien, pour pouvoir réaliser des actions militaires. Toute la question est de savoir aujourd'hui si il était vraiment spécifié dans ces accords, puisqu'une partie reste secrète, s'il était vraiment spécifié que l'État français allait réaliser des expérimentations nucléaires. Il n'en est pas certain. En tout cas, on peut probablement se dire que les autorités à l'époque algérienne, qui cherchaient à avoir leur indépendance, n'ont pas eu véritablement le choix et ont dû accepter dans tous les cas que l'État français reste 5 années supplémentaires. Donc, elle est restée jusqu'en 67. Et une petite information importante, en réalité, une part d'autorité militaire française est restée jusqu'à la fin des années 70, puisque, et là, avec l'accord des autorités algériennes, puisque un site a permis de réaliser des expérimentations, alors non pas d'armes nucléaires, mais d'armes biologiques et chimiques. Et ça fait partie des choses qui sont aussi assez peu connues.
Mais alors, ce qui était assez étonnant, c'est que donc, vous dites à chaque fois apparemment, donc c'est un dossier qui est toujours classé confidentiel défense.
En fait, une partie des accords d'Évian reste secret, donc on n'est pas au courant de l'ensemble des dossiers dans ces accords. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de rester dans le conditionnel et qu'on ne peut pas avoir une affirmation à 100%.
Oui, mais enfin, ce qui paraît un peu stupéfiant, c'est qu'il n'a été trouvé aucun compte-rendu donnant l'état radiologique dans lequel les champs de tir ont été restitués aux autorités algériennes en 67.
Par rapport à ça, donc les autorités algériennes n'ont pas eu de compte-rendu. Il y a eu un échange de sites, entre guillemets, puisque les autorités militaires algériennes ont pris possession de ces sites militaires français, donc les anciens territoires d'expérimentation. Il y a eu un processus de nettoyage, on va mettre des guillemets au mot nettoyage, réalisé par les autorités françaises. On le verra plus tard, puisqu'ils ont donc enterré des déchets nucléaires sous sable. Les autorités algériennes, ça, étaient au courant de cette problématique-là. Ont également, elles, un peu nettoyé, mais ça en est resté là, je dirais, puisque à la fois on peut le comprendre, les autorités nouvellement élues, ou en tout cas qui prenaient nouvellement le pouvoir sur cet État, eh bien, on travaillait à d'autres choses que sur le nettoyage d'anciens sites militaires, et c'est resté aussi par la suite une thématique taboue à la fois pour l'État algérien, puisque vous l'avez rappelé. 11 essais nucléaires ont eu lieu alors que l'État algérien était indépendant. Donc c'est quelque chose qui est compliqué à expliquer aussi pourquoi finalement on a laissé le colonisateur faire quelque chose sur notre territoire qui était
dans notre population. C'est ce que je voulais vous demander, parce que d'abord, pour nos auditeurs, de comprendre quelle est la taille de ces sites, l'étendue.
Alors c'est plusieurs milliers de kilomètres carrés, hein, le site de Reagan où il y a eu lieu 4 essais nucléaires atmosphériques, et le site de Hinnéker qui est principalement une montagne, la montagne du Tal Nefala, c'est plusieurs dizaines de milliers de kilomètres carrés. Donc c'est des sites qui sont peu accessibles aussi parce que c'est dans le désert. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de population, hein. Il y a des populations touareg, bien évidemment. Le site de Hinnéker, qui est donc cette fameuse montagne du Tal Nefala, est probablement plus accessible puisqu'il y a une route qui passe par là. Il y a une route exactement en direction Taman Rasset qui passe à proximité, donc où il y a des populations qui vivent aussi de façon assez proche. Donc voilà à peu près comment se situent géographiquement ces sites.
D'accord. Parce que dans votre étude, vous abordez trois dimensions. En fait, je vous cite presque là ici sur les essais nucléaires. Vous dites il y a leur irresponsabilité du point de vue de l'environnement, de la santé publique et les effets déstabilisateurs du point de vue politique et injustice du point de vue post-colonial, on va dire.
Oui, alors, il faut se remettre dans le contexte de l'époque et il faut se remettre dans notre contexte à nous. À l'époque, il est évident que les problématiques environnementales sont totalement ignorées par les autorités militaires françaises qui vont faire des essais nucléaires, qui vont extrêmement contaminer l'air, le sol et tout ce qui est souterrain aussi, s'ils ont fait des essais souterrains, puisque cette pensée écologique ou environnementale n'existait pas. Il est évident qu'il y a eu cette déstabilisation au niveau de l'environnement et c'est ce qui est reproché en fait aujourd'hui. Et là, je vais rester sur l'État français, même si on pourrait aussi évoquer les autres États qui sont grosso modo dans la même situation, la même configuration de pensée. C'est qu'aujourd'hui, ce que l'on reproche à l'État français, c'est que d'une part, il y a bien cette prise de conscience de la protection de l'environnement. D'autre part, il ne veut pas révéler un certain nombre d'informations qui permettraient d'avoir une certitude que les autorités algériennes puissent totalement s'assurer d'enlever ou les déchets qui resteraient enterrés sous le sable, ou d'avoir la certitude qu'il n'y en a plus, ou d'avoir une comptabilité, bref, de pouvoir faire un travail de réhabilitation de l'environnement de façon complète. Et ça, c'est un vrai reproche qu'on peut faire, puisque c'est bien dans les mains des autorités militaires et politiques françaises, et que ce serait à la fois une action humanitaire, environnementale et sanitaire importante à réaliser, et qui permettrait de, en quelque sorte, même si ce dossier ne sera jamais clos, mais en tout cas de tourner une véritable page entre les relations entre la France et l'Algérie.
Mais où en est aujourd'hui le dossier? Qu'est-ce que fait votre association? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce que c'est votre association?
Oui, alors, ICAN, c'est donc la campagne internationale pour abolir les armes nucléaires. C'est une campagne qui est née en 2007 et qui, comme son nom l'indique, a pour objectif de mettre en œuvre un traité sur l'interdiction des armes nucléaires, un traité que l'on a porté, qui a été adopté à l'ONU en juillet 2017, qui est entré en vigueur en janvier 2021, qui est aujourd'hui signé et ou ratifié par 93 États et 70 pays qui l'ont ratifié. Et par exemple, on a des États comme le Kazakhstan, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, le Mexique, le Costa Rica ou l'Indonésie, pour en citer rapidement quelques-uns. Et ce traité a aussi une particularité, c'est qu'il porte sur l'interdiction et l'élimination des armes nucléaires. Il porte aussi sur la question de l'assistance aux victimes et sur la question de la réhabilitation de l'environnement. Et dans ce cadre-là, la campagne ICAN en France que je dirige travaille sur ces questions-là et on essaye de faire avancer ce processus-là à la fois de connaissances, puisqu'il y a un besoin de connaissances sur les essais nucléaires que la France a réalisés aussi bien en Algérie, donc 17, qu'en Polynésie française, elle en a réalisé l'État français 193, et à la fois pour aider les populations à être reconnues comme victimes, puisque en France, il existe une loi qui est positive, mais qui est assez compliquée à mettre en œuvre, mais c'est ce qu'on appelle la loi Morin, du nom de l'ancien ministre de la Défense, qui a été adopté et mis en œuvre à partir de 2010 et qui reconnaît des populations dans un certain cadre comme victimes des essais nucléaires. Mmh. Et dans ce, voilà, donc nous, on essaye d'aider les populations des deux territoires, hein, polynésiens et algériens, même si en Polynésie, il y a des associations fortes qui se sont constituées et qui donc ont fait avancer ce dossier, qui n'est pas véritablement le cas en Algérie.
D'accord. Alors, Monsieur Jean-Marie Collin, il existe, bien sûr, le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires qui est un traité international qui a été conclu en 1968 et signé par un grand nombre de pays. Je rappelle que les États-Unis mettent au point l'arme nucléaire durant la première moitié des années 40, dans le cadre du projet Manhattan. Dans les deux décennies qui suivent, quatre autres pays développent à leur tour l'arme nucléaire. L'Union soviétique en 49, le Royaume-Uni en 52, la France, justement, en 1960, et la Chine en 64. Alors ma question, c'est, existe-t-il, puisqu'il y a un traité de non-prolifération des armes nucléaires, existe-t-il, ne serait-ce qu'un projet, d'un traité sur la post-prolifération et la décontamination des essais des armes nucléaires? Est-ce qu'il y a un traité? Est-ce qu'il y a un projet?
C'est le traité sur l'interdiction des armes nucléaires qui a été donc adopté en 2017, entré en vigueur en 2021, et qui est donc aujourd'hui refusé par les puissances que vous avez citées, mais qui est souhaité et qui est travaillé par l'écrasante majorité du reste du monde. Donc c'est quand même ça qu'il faut retenir. Et donc dans ce traité, qui complète le traité de non-prolifération nucléaire, hein, les traités se complètent, ils ne s'opposent pas, ils s'améliorent entre eux. Enfin, c'est important que vos éditeurs entendent bien que tous les traités qui existent aujourd'hui, il y en a 3-4 qui sont importants, se complètent tous et se renforcent pour parvenir à ce qu'un jour, enfin, on ait plus d'armes nucléaires. Et donc, la particularité du traité sur l'interdiction des armes nucléaires, qui est donc le TIAN, c'est à la fois de mettre en œuvre un processus pour éliminer ces armes et à la fois de mettre un processus pour aider les populations victimes et aider à la réhabilitation de l'environnement. Actuellement, on travaille sur la création d'un fonds qui va permettre, donc un fonds financier, qui va permettre aux États qui sont membres de ce traité de demander de l'argent pour les aider à réhabiliter l'environnement. Et dans ce cadre-là, par exemple, on sait que des États comme le Kazakhstan, que des États comme les Fidji, par exemple, qui ont été affectés par les retombées des essais nucléaires britanniques, sont des États qui vont solliciter ce fonds dès qu'il sera créé. Et logiquement, il sera créé et lancé en mars 2025. Donc, vous voyez, c'est assez proche.
D'accord. Et est-ce que, si on vous revenait un peu dans l'histoire de l'Algérie, vous pourriez simplement nous décrire quels étaient ces 17 essais nucléaires? Donc, vous dites qu'il y a eu donc des essais souterrains. Quels sont les déchets qu'on trouve aujourd'hui sur place?
Oui, alors donc, là, l'État français est arrivé sur le premier site qui a servi donc de site d'essai atmosphérique qui s'appelle le site de Reagan. À la fin des années 60, hein, en 1957, ils ont commencé à installer des bases, à créer, puisque objectivement il n'y avait rien, c'était le désert, mais donc ils ont créé des pistes d'aviation, un camp pour pouvoir abriter les soldats et les populations qui aidaient à travailler. Et donc il y a eu 4 essais aériens sur ce site, puis 13 essais souterrains dans cette fameuse montagne, dont certains, 4 au moins, ont été beaucoup plus forts que prévu et d'essais souterrains se sont transformés en une sorte d'essais aériens, c'est-à-dire que des retombées radioactives, la montagne s'est fissurée par endroits et a laissé passer des retombées radioactives, des nuages de poussière. Ce qui a été enterré, ce qui a été laissé sur place, c'est tout ce qui a servi à réaliser ces essais nucléaires en termes d'expérimentation. Par exemple, lorsque une arme atmosphérique, enfin un essai atmosphérique était réalisé, l'État français a mis autour de cette bombe des chars, par exemple, des voitures, un certain nombre de choses pour voir quelle était la résistance de ces matériaux. Donc tout ça qui était contaminé a été découpé et enterré. On sait que des avions aussi traversaient les nuages atmosphériques pour pouvoir faire des prélèvements de particules afin d'analyser cette arme testée. Ces avions ont aussi été découpés et enterrés. En gros, j'ai envie de vous dire, et c'est ce qui est indiqué dans notre étude réalisée avec l'Observatoire des armements, du petit tournevis potentiellement contaminé à l'avion contaminé, tout ce qui était susceptible d'être contaminé par la radioactivité a été enterré dans les sables du désert algérien.
D'accord, mais le désert, c'est un espace vivant qui se déplace. Qu'est-ce qui se passe alors? Que s'est-il passé? On peut retrouver ces objets, ces morceaux découpés?
Alors, on sait qu'une partie de ces matériaux ont été prélevés par les populations qui vivaient aux alentours, parce que c'était du fer, parce que c'était du cuivre, parce que c'était différents types de métaux. Donc forcément, ça a très probablement engendré des problématiques sanitaires.
Quand vous dites problématiques sanitaires, qu'est-ce que vous entendez quoi par là?
Bah, des maladies radio-induites, hein, des maladies de type cancer, des malformations. Ce qui nous manque aujourd'hui, et c'est pour ça que je reste dans le conditionnel, même si on s'aperçoit à travers différents documents qu'il y a des populations qui sont mal formées, peut-être de façon plus importante dans cette partie du Sahara, ou qui ont peut-être des cancers plus importants. Il est de la responsabilité de l'État français de remettre aux autorités algériennes les cartes où ont été enterrés les déchets, par exemple, mais il est de la responsabilité de l'État algérien de mener des enquêtes de santé publique, puisque c'est son territoire et sa population. Hein, ça, c'est deux choses différentes et deux responsabilités différentes. Il y a un échange depuis la présidence de Nicolas Sarkozy. Il a été créé un groupe donc en 2008, annoncé en 2007, créé en 2008, un groupe de travail sur la question des essais nucléaires. Le problème, c'est que ce groupe de travail, leurs échanges sont restés confidentiels. En tout cas, on n'a pas eu d'informations jusqu'au moins 2021, à peu près sur cette période. Donc, on sait qu'il y a eu quelques échanges, mais qui n'ont pas donné lieu à grand-chose, objectivement. En tout cas, il n'y a pas eu dans les faits d'informations qui ont permis de dire qu'il y a eu une évolution de ce sujet-là. Ce qu'on peut voir, par contre, c'est que depuis la publication de l'étude que j'ai donc réalisée sous le sable, la radioactivité est réalisée encore une fois avec un collègue de l'Observatoire des armements, on a pu véritablement faire avancer ce dossier à différents niveaux. Tout d'abord, ce sujet-là est devenu public, véritablement. D'autre part, un rapport qui avait été commandé par le président Macron auprès d'un historien qui s'appelle Benjamin Sora, qui est un grand spécialiste de la question de la colonisation française en Algérie, a cité ce rapport et l'a remis au président Macron et donc a fait remonter ces informations-là. Les autorités algériennes se sont aussi saisies de ce sujet-là de façon publique et officielle, puisque à différentes reprises, tant le président algérien, M. Tebboune, que le chef d'état-major de l'armée algérienne ont interpellé les autorités politiques et militaires françaises, demandant officiellement les cartes où étaient enterrés ces différents déchets. Il y a aussi une avancée politique, et là on peut la saluer, importante de la part des autorités algériennes, puisqu'elles ont créé en 2021 une agence pour réhabiliter les anciens sites d'essai du sud algérien. Donc ça veut bien dire qu'officiellement, désormais, il y a une démarche politique qui est faite. Et cette démarche politique, elle est aussi dans le sens de ce traité que je vous ai cité, hein, le traité sur l'interdiction des armes nucléaires. C'est aussi très probablement la dernière étape avant que l'État algérien, qui est déjà signataire de ce traité, aille ratifier ce traité. Donc, depuis 3-4 ans, on a une évolution. On peut probablement dire que c'est pas assez rapide, hein, puisque c'est une problématique qui a été créée depuis 1967.
Ça paraît assez aberrant qu'on n'arrive pas à transmettre les cartes. Enfin, je veux dire, ça paraît tellement évident. Première chose à faire.
C'est vrai que ça paraît totalement aberrant. On peut très largement supposer qu'il y a des blocages internes du côté de l'État français, hein, puisqu'encore une fois, pour le coup, ces cartes sont dans l'État français, que ça soit pour des raisons politiques, stratégiques, administrative ou je ne sais quelle autre raison. Dans tous les cas, c'est fort dommage que l'État français ne se saisisse pas de cette opportunité pour, encore une fois, tourner cette page-là et engager véritablement une nouvelle page de construction des relations avec l'Algérie.
Est-ce que c'est le même problème qu'avec la Polynésie française? Parce que le président Macron a déclaré à un moment donné que la France avait une dette envers la Polynésie française. Est-ce qu'il est capable de déclarer qu'il y a une dette envers l'Algérie?
Alors, pour l'instant, ce terme-là n'est pas encore utilisé pour ce qui est de l'Algérie. Hein, mais ce qui est réalisé, c'est, par contre, c'est vrai qu'au niveau de la Polynésie, c'est différent. C'est un territoire français, hein, et il y a eu des avancées importantes, notamment l'ouverture complète des archives des essais nucléaires français en Polynésie. Et c'est bien ce qu'on attend aussi du côté des archives qui concernent les essais nucléaires en Algérie, puisque Le président Macron a bien annoncé l'ouverture de toutes les archives liées à la colonisation, mais pas sur ce qui concerne les essais nucléaires. Donc ça fait partie aussi des derniers leviers qui doivent être absolument levés.
D'accord. Et a-t-on mis en place pour cela une action en justice ?
Alors, les actions en justice, en fait, elles existent, puisque, encore une fois, il existe cette loi qui s'appelle la loi Morin, créée en 2010. Et donc, c'est aux populations victimes des essais nucléaires français à mettre en œuvre cette action en justice. Donc nous, on a réussi, et ça, c'était, ça montrait aussi la lenteur et le mauvais fonctionnement de cette loi. Cette loi, les principaux éléments et les dossiers pour pouvoir prétendre à engager un processus de reconnaissance en termes de victimes n'étaient pas encore traduits, par exemple, en langue arabe algérienne. Alors que cette loi existe depuis 2010, donc là, ça fait partie, encore une fois, des lenteurs ou de la volonté de ne pas faire avancer ce type de dossier. Cette loi, ces éléments ont été publiés en 2021.
D'accord. Donc, vous dites qu'il existe une loi et donc on peut, c'est-à-dire qu'il y a des victimes qui pourraient attaquer, on va dire, je ne sais pas qui d'ailleurs, l'Algérie, la France, qui attaque-t-on à ce moment-là dans ce dossier ? Judiciairement parlant.
Judiciairement parlant, en fait, c'est pas qu'on attaque, c'est qu'on demande un processus de reconnaissance.
Comment ça se passe en fait ? Voilà, il y a des victimes qui se présentent où les gens soupçonnent d'avoir des problèmes de thyroïde ou des problèmes de cancer. Qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là ? Quel est le processus ? Imaginons qu'il y a des Algériens qui nous écoutent maintenant et qui se posent la question : qu'est-ce que je dois faire ?
En fait, pour qu'une personne puisse prétendre à déposer un dossier auprès du CIVEN, c'est le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires, donc c'est un organisme français qui est sous l'égide du Premier ministre, il doit répondre à trois conditions tout d'abord. Il doit être atteint d'une maladie radio-induite, hein, c'est un cancer, il y a une liste de types de cancers, il y a 23 cancers qui sont reconnus. Il doit avoir été sur la zone des essais nucléaires pendant une période entre 1960 et 1967. C'est-à-dire que s'il a été dans cette zone-là après 1967, il ne peut pas être reconnu comme une victime des essais nucléaires.
Non, alors c'est pas étrange, hein ? Ça vous paraît pas étrange ?
Alors en fait, ce qui pose problème, c'est à la fois la problématique effectivement de temps et en même temps la problématique liée à la zone, parce que cette zone est assez restreinte. Et si on prend un parallèle avec la Polynésie française, pendant de nombreuses années, cette zone était liée principalement aux atolls. Il y a quelques atolls environnants là où il y a eu les essais nucléaires. Et aujourd'hui, depuis 2018, c'est l'ensemble de la Polynésie française qui est reconnu comme un territoire dans lequel on peut prétendre à cette fameuse indemnisation. Donc on a ces deux problématiques à la fois de temps et de zone qui restent à faire évoluer au niveau de cette loi. Mais si la personne rentrait dans ce cas-là, elle doit déposer donc auprès de ce CIVEN un dossier qu'aujourd'hui donc notre campagne ICANN France est arrivé à obtenir de la part du CIVEN, à obtenir qu'il soit enfin traduit, puis par la suite se mettre en place un processus d'évaluation des réparations en termes d'impact financier pour cette personne. Aujourd'hui, on a à peu près, et c'est là où on s'aperçoit que cette loi est importante mais fonctionne mal en fait, on a eu à peu près 2300 personnes entre les territoires d'Algérie, de France et de Polynésie qui ont déposé un dossier pour se faire reconnaître comme victime, alors qu'on sait qu'on a au moins 150 000 personnes qui ont participé à ces essais nucléaires. Et sur ce nombre-là de 2300 personnes, on n'a que 875 personnes reconnues comme victimes par l'État français. Et on va encore diminuer très largement, puisqu'on a un seul Algérien qui a été reconnu, donc résident algérien, qui a été reconnu comme une victime des essais nucléaires.
C'est presque blessant. Et vous parlez de la zone, et on parle du temps, c'est-à-dire que tout ça, c'est extrêmement limité. Donc cette loi ne s'applique que dans ces conditions-là. On sait qu'aujourd'hui, on peut encore trouver des objets contaminés. Donc on peut être contaminé. Ça ne marche pas, cette loi. Donc on est contaminé parce qu'il y a eu des essais il y a 60 ans, mais la loi ne marche pas. On ne décontamine pas le site. Donc ça va mettre encore on ne sait pas combien de temps. Et en plus, il y a des essais qui ont été pratiqués, il y a eu des essais à l'air libre, si je comprends bien. Donc, ça a pu se transporter jusqu'aux pays voisins, pas seulement le territoire. Il y a le Maroc, la Mauritanie, le Mali, le Niger et la Libye qui ne sont pas si loin que ça, finalement, si on parle de l'air.
Oui, oui, bien sûr.
Alors,
une des problématiques, c'est que, effectivement, des retombées radioactives, bon, on le sait, ont été beaucoup plus loin. Ce qui nous manque en termes de données, c'est les quantités, puisqu'il y a eu des balises à la fois déposées par les autorités françaises et même par un certain nombre d'États. Par exemple, le Ghana a été affecté par des retombées radioactives dues aux essais nucléaires français. On sait qu'ils avaient à l'époque, avant et après ces contaminations, enfin, fait des relevés scientifiques, mais c'est des informations que l'on n'a pas aujourd'hui. Il faut bien voir que tous ces pays sont tous plus ou moins rentrés dans des processus de décolonisation à peu près au même moment. Et donc, ce sujet-là, armes nucléaires, essais nucléaires, en tout cas plutôt contamination par les essais nucléaires, sont restés écartés et de côté. Et c'est tout l'intérêt justement aujourd'hui d'avoir ce traité sur l'interdiction des armes nucléaires qui vient remettre, je dirais, sur le tapis ces questions-là et qui demande aux États et qui travaille avec les États, ou en tout cas les États travaillent à l'intérieur de ce traité, pour faire avancer ces sujets-là, pour faire reconnaître les victimes, pour faire reconnaître les zones, pour aider les générations futures à ce qu'elles soient au courant des contaminations qu'il y a pu y avoir, et puis pour éviter que les générations futures soient contaminées par potentiellement ces éléments. En tout cas, que l'histoire se rappelle qu'à un moment donné, l'homme, des États ont réalisé des expérimentations nucléaires extrêmement dangereuses pour à la fois des populations et pour l'environnement.
D'accord. Vous nous avez un peu expliqué ce que c'était ICAN, mais vous êtes aussi chercheur associé au GRIP. Pourriez-vous nous parler du GRIP un peu, s'il vous plaît ?
Oui, alors pour être pleinement honnête, je reste chercheur associé au GRIP. Hein. Le GRIP est le groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité, pour lequel j'ai beaucoup fait d'études dans les années, sur la période de 2015-18 à peu près. Aujourd'hui, je suis le directeur d'ICAN France et donc je travaille à 100% pour ICAN France. Mais le GRIP est donc un think tank basé en Belgique et qui travaille sur les questions liées à la fois au transfert d'armement et liées aussi aux questions larges liées aux armes de destruction massive, que ce soit nucléaire, biologique ou chimique, et qui ont aussi tout un programme lié à la question du maintien de la paix en Afrique.
D'accord. Écoutez, peut-être vous auriez quelque chose d'autre à rajouter en général, mais ça paraît assez clair. Seule chose qui est assez étonnante, c'est que ça reste secret défense, quelque part, et au bout de notre conversation, j'ai pas l'impression que ça avance à grands pas.
Ça avance doucement, mais vous savez, ce type de problème avance toujours doucement et rien ne s'est fait en quelques jours à aucun niveau. Le Kazakhstan a énormément avancé sur les contaminations. Aux États-Unis, c'est très long aussi. En Australie, c'est très long aussi. On est sur des thématiques et des sujets qui sont évidemment beaucoup trop longs, puisque derrière, on a des populations qui en sont victimes. Mais qu'on peut dire, est-ce qu'on peut être certain, c'est que ça avance parce que des organisations, des ONG comme la nôtre, comme ICAN France, prennent en main ce sujet et que sans nous, effectivement, ça n'avancerait pas du tout. Donc, on est sur une évolution trop lente, elle existe et aujourd'hui, on a besoin d'une pression plus forte à la part de la société civile, de la part de nouveaux acteurs politiques et le fait de pouvoir en parler dans les médias, ça aide aussi à pouvoir faire avancer, à pouvoir faire prendre conscience que un Algérien du sud du Sahara peut déposer un dossier auprès de ce fameux Civen. Un étudiant algérien peut s'emparer de ce sujet pour faire, une thèse, un mémoire, pour communiquer là-dessus.
D'accord. Il y avait un article qui citait en fait le ministre des Affaires étrangères Sabir Mokadam, qui avait servi en Algérie, qui était entre 19 et 21 ministre des Affaires étrangères, et qui a déclaré que les essais nucléaires effectués par la France dans la région d'Origan, dans le Sahara algérien, équivalaient à 3-4 fois la bombe atomique larguée à Hiroshima. Est-ce que vous confirmez ça?
Oui, c'est ça, c'est à plusieurs fois. Alors, la bombe d'Hiroshima, c'est 15 kilotonnes, et la première bombe de Charboise Bleue, ça doit être à peu près 60 kilotonnes, donc ça fait 4 fois. Effectivement, les armes nucléaires qui ont été employées ont été plus importantes que celles utilisées sur Hiroshima, puisqu'il y a une volonté de tester l'arme.
Merci beaucoup Jean-Marie Collin. qu'on a eu au micro de Spoutnik Afrique dans l'émission Identité africaine. À très bientôt aux auditeurs. Au revoir, monsieur Jean-Marie Collin. À bientôt. Au revoir.
Merci beaucoup. Au revoir. Merci.
Là-dessus se termine Identité africaine sur Radio Spoutnik Afrique. À très bientôt, chers auditeurs.